Bonsoir à tous et merci d'être venus pour écouter ce soir Damien Agut qui vient de publier avec Juan Carlos Moreno Garcia chez Belin dans la collection Mondes anciens sous la direction de Joël Cornette une nouvelle histoire de l'Égypte intitulée L'Égypte des pharaons de Narmer à Dioclétien. Alors, avant de te poser quelques questions, pour que tu présentes cet ouvrage et que tu en expliques la genèse, je vais rappeler, Damien, que tu es actuellement chargé de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité, ARSCAN, à Nanterre, dans l'équipe Histoire et Archéologie de l'Orient cunéiforme, à Roc. Tu es docteur en égyptologie et tu t'es spécialisé dans l'étude de l'écriture égyptienne qu'on appelle le démotique, écriture cursive égyptienne qui apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ, avec l'avènement de la monarchie saïte. Ton premier livre, intitulé « Le sage et l'insensé », issu de ton travail de doctorat, porte d'ailleurs sur la composition et la transmission des sagesses démotiques. Tu as ensuite publié, avec Michel Chauveau, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, une anthologie de la littérature égyptienne, intitulé « Héros, magiciens et sages oubliés de l'Égypte ancienne » aux belles lettres. Mais ces travaux sur la langue et la littérature ne doivent pas masquer ta formation première d'historien et tes travaux actuels portent majoritairement sur l'histoire économique et sociale de l'Égypte au premier millénaire avant Jésus-Christ, surtout aux époques saïtes et perses. Tu es membre du programme Achéménète et tu as publié en ligne, avec Michel Chauveau, un corpus d'ostraca, c'est-à-dire de textes inscrits sur tessons de poterie, provenant du site d'Ain Manawir, au sud de l'oasis de Karga, dans le désert occidental égyptien. Tu es là aujourd'hui pour nous présenter un ouvrage destiné au grand public, qui est une nouvelle histoire de l'Égypte, et tu es venu sans le deuxième auteur de cet ouvrage, Juan Carlos Moreno Garcia, mais tu vas nous dire pourquoi.
Alors, ben en fait, j'ai laissé Juan Carlos avec les enfants. Non, blague à part. Aujourd'hui, nous avions un séminaire à l'école des études en sciences sociales et c'est lui qui s'est chargé de s'occuper des étudiants. On s'est partagé le temps en deux. En fait, novembre, décembre, c'est moi qui vais présenter le livre et janvier, février, c'est lui qui fera la tournée de promotion. Donc aujourd'hui, c'était son jour d'étudiant. Je présente rapidement Juan Carlos, qui est directeur de recherche au CNRS. Alors, il n'appartient pas à la même équipe que moi. Il appartient à l'équipe de Paris 4, donc le centre de Paris. Et Juan Carlos, alors on a les mêmes goûts, c'est-à-dire que lui, on est tous les deux des historiens plutôt socio-économiques de l'Égypte. Et Juan Carlos travaille sur le 3e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est important que je vous dise, alors dans moi premier, lui 3e et 2e, vous branchez les deux, ça fait, on couvre les 3 millénaires. C'est important que je vous présente les choses comme ça parce que, en fait, ce livre est né, on l'a mis 4 ans à l'écrire, mais il est né il y a très longtemps, en fait. Il est né... on peut dire qu'il y a une dizaine d'années au cours de discussions de discussions de café après les journées de travail, on se retrouvait, on discutait, ça serait bien de faire ça pour le troisième millénaire, ça serait bien d'écrire ça comme ça pour le deuxième. Et de fil en aiguille, on a fabriqué une espèce de projet, mais qui n'avait pas de support éditorial. C'est une série d'idées, vous accrochez comme ça. Et en fait, quand les Joël Cornette et les éditions Belin nous ont proposé ce projet, on s'est dit on va essayer de raccrocher l'ensemble des idées ensemble. Ça, c'était la vision idyllique. Vous dites, vous prenez vos paquets d'idées, vous les branchez, ça va faire un lien. En fait, ça ne se passe pas comme ça du tout. Parce que d'abord, entre vos paquets d'idées, il y a plein de choses que vous n'avez pas pensées. Et puis, quand vous mettez vos idées les unes à la suite des autres, elles font une musique que vous n'attendiez pas. Parce qu'elles fonctionnent. On n'est pas toujours cohérent, on a changé d'idée, on a changé d'avis des fois sur des problèmes. Et en fait, le livre nous a obligés à faire une énorme mise en cohérence de l'ensemble de ces travaux. De sorte de ces idées. Alors, de sorte que ce livre-là, en réalité, on nous a dit, les collègues nous disent, c'est bien, voilà, c'est un aboutissement, vous êtes arrivés au bout et tout. Et en fait, pas du tout. On a l'impression d'avoir posé la première pierre. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'en ayant écrit tout ça que maintenant, on commence à se dire, voilà comment il faudrait réorienter notre travail de recherche, les problématiques qu'on pose et tout ça. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'idée de faire un ouvrage grand public. Souvent, quand vous travaillez au CNRS, on vous dit tu vas faire un ouvrage de vulgarisation. Alors, vulgarisation, ça veut dire, grosso modo, tu vas faire ton boulot sérieusement de chercheur, tu vas publier des textes. Et puis, si tu as un peu de temps, le soir, tu vas griffonner des trucs pour le grand public. Alors, premier point, c'est que c'est le grand public qui nous paye. Nous sommes des, enfin, on est payé par les contribuables. Et le deuxième point, c'est que ce type d'exercice-là, de grande synthèse, ne nous est jamais demandé par nos autorités. C'est-à-dire, moi, je peux faire ma carrière avec plein de petits articles. Là, je viens de publier des reçus pour un impôt payé sur l'huile dans l'oasis du désert occidental au 5e siècle. Vous voyez, des choses toutes petites comme ça. Et je peux faire toute ma carrière dessus. Mais la demande qui nous est venue de l'éditeur d'écrire ça va avoir un impact sur notre recherche scientifique. Parce que tout d'un coup, on a été obligé de penser les problèmes à une échelle beaucoup plus large que nous ne les aurions envisagés si nous avions suivi le train-train de nos institutions. Bon, c'est pour ça que l'exercice qui nous est demandé, dit de vulgarisation, est en fait un véritable exercice scientifique et qui aura une retombée scientifique, enfin, au sens où ça aura une retombée sur nos recherches futures à Juan Carlos et à moi-même.
Merci. Et alors, moi, le premier effet de surprise que j'ai eu en ouvrant cet ouvrage, donc effectivement, qu'on qualifie de grand public, c'est qu'on s'attend à trouver la phrase qu'on trouve partout dès qu'il s'agit de l'Égypte, à savoir la phrase d'Hérodote, « L'Égypte est un don du Nil ». Et on ne trouve pas cette phrase dans l'ouvrage, ni dans l'introduction, ni nulle part. Et il ne s'agit pas d'une simple volonté de faire quelque chose de nouveau, ou de ne pas faire comme tout le monde, de refuser une entrée en matière trop attendue, c'est en réalité lourd de signification. Cette nouvelle histoire de l'Égypte se positionne d'emblée dans une perspective qui veut sortir des clichés sur l'Égypte, le mirage égyptien qu'on a l'habitude de voir et d'offrir au grand public.
Bref, offrir au grand public et offrir à nos collègues, enfin, on fonctionne tous sur le même diapason. Alors déjà, le fait de ne pas vouloir faire comme tout le monde, c'est jamais une bonne idée en soi. C'est-à-dire que c'est pas, tout le monde peut avoir raison sur un point, ce n'est pas un problème. Alors pourquoi on a appartenu à Hérodote ? Parce que moi, j'ai rien contre Hérodote, j'aime beaucoup, je passe une partie de mon temps à l'étudier. Mais le problème, c'est que la phrase, si vous la sortez du contexte du passage, elle fabrique quelque chose, une idée qui est terrible, qui est l'idée, si vous dites « l'Égypte est un don du Nil », ça veut dire que la civilisation égyptienne découle de la nature. Et là, aucune civilisation ne découle de la nature. La civilisation, ce n'est pas un fait naturel. C'est des hommes qui font des choix, qui sont poussés par un milieu. Bon, c'est une interaction entre l'homme et un milieu. Et du coup, on n'a pas repris cette phrase, pas par volonté de faire les marioles, mais on l'a pas reprise parce qu'elle nous semble d'emblée placer le livre dans une perspective qui est une perspective naturaliste. L'homme égyptien serait plus naturel que les autres. Il serait plus lié à un milieu que les autres. Il découlerait naturellement d'un milieu. Alors qu'en réalité, alors là, je mets ma casquette de spécialiste. Moi, je travaille plutôt sur l'agriculture égyptienne. Le milieu égyptien, c'est un milieu oasien. Une grande oasis, l'Égypte. Il n'y a pas de milieu plus artificiel qu'une oasis. Si l'homme ne se bat pas contre la nature dans une oasis pour faire sourdre l'eau, pour quand elle est sortie, la diriger, pour introduire de nouvelles espèces, pour accroître la biodiversité, l'oasis éjecte l'homme ou disparaît. Dans le cas du Nil, la vallée que vous voyez aujourd'hui dans laquelle on se promène, elle est le résultat d'efforts, de travail, de centaines de générations de gens qui ont drainé les pieds dans la boue, l'eau, qui ont canalisé le Nil. Le dernier grand effort prométhéen, c'est le grand barrage d'Assouan. Mais avant le grand barrage d'Assouan des années 70, il y a eu des millénaires de petits barrages d'Assouan construits à l'échelle d'un village, pour simplement faire que l'eau du Nil, par exemple, ne stagne pas. Vous savez, vous avez toujours le livre de sixième, on vous dit on fait venir l'eau dans le champ, le paysan attend que l'eau dépose le limon, et puis l'eau s'en va gentiment. Mais ça ne fait pas ça de l'eau. Hein. L'eau, elle arrive, elle s'en va si elle veut, si elle reste, vous ne pouvez pas planter, d'accord ? Si elle passe trop rapidement, elle vous emporte votre couvert végétal. Donc, le premier chapitre, on l'a appelé « L'oasis d'Égypte et le travail des hommes », justement, ça prend le contre-pied d'Hérodote, c'est que l'Égypte est une production des Égyptiens. Et en faisant cela, c'est une production du travail des Égyptiens, qui est un travail, juste là-dessus, c'est un travail de chien. C'est-à-dire qu'on a on cite cette étude qui est passionnante, qui est une étude qui a été faite par des paléo-épidémiologistes, des gens qui travaillent sur les épidémies anciennes. Dans l'eau d'Égypte, il y a un petit ver qui s'appelle le schistosome, et ce ver va se loger notamment dans les reins. Alors ça fait des trous dans les reins. Bon, pendant des années, ça se traduit par un symptôme qui est en urine du sang. Bon. Et ensuite, ce ver détruit complètement le rein, donc le corps, évidemment, est abîmé, et on meurt prématurément. Ce ver, on arrive à détecter sa présence dans les momies parce qu'il pond des œufs. Et donc, dans les momies, quand les momies sont suffisamment bien conservées, on arrive à repérer les petits œufs laissés par ce schistosome. Les taux d'infection sont de 80%. C'est-à-dire que vous avez 80% de la population égyptienne momifiée, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens, en plus de se payer la momification, qui sont infectés par ce ver. Donc, on est dans un environnement marécageux extrêmement hostile que les hommes, au fil des millénaires, ont eu à plier à leur volonté. Cette idée-là n'était pas une idée en... C'était une idée qui avait une conséquence lourde pour le livre. Parce qu'à partir du moment où vous dites ça, c'est-à-dire que l'Égypte est pardonnée par la nature, mais par le travail des gens, des paysans égyptiens, vous arrivez à vous lancer sur une perspective d'histoire égyptienne qui n'est pas une histoire du dessus, qui n'est pas une histoire des élites. Le roi, le pharaon et tout ça, ils sont là. Mais en dessous, vous avez des populations qui travaillent, qui vivent, qui se structurent, qui ont des systèmes politiques, qui ont des villages, vous avez des nomades, etc. Et du coup, cette approche-là nous a permis aussi de faire une histoire de l'Égypte qui soit une histoire plus de la société égyptienne, en cherchant à avoir un maximum de profondeur historique. Pour une société de 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est difficile d'avoir une profondeur sociale, tout ça. Mais on s'est astreint à ce cahier des charges en permanence, effectivement, de raconter ce qui se passe au sommet de l'État, mais le sommet de l'État comme le produit de transformation des couches sociales qui sont en dessous de ce sommet de l'État. Voilà.
Et vous avez délibérément refusé le découpage historique traditionnel, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire et Basse Époque. Est-ce qu'il y a une raison aussi ?
La raison, elle découle de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous dites on va prendre les gens, on va faire une histoire de la société par en bas, la notion de période faste et de période de retrait, vous savez, l'histoire égyptienne, c'est trois grands empires, ancien, moyen, nouvel, et entre un truc qui, pour un historien, est un nom affreux, c'est période intermédiaire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la notion de période intermédiaire ? Rien. Alors, du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, par exemple, Première période intermédiaire, c'est la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. On vous dit, l'épigraphie, les textes hiéroglyphiques sont moches, c'est le bazar au sommet de l'État, vous avez des révoltes, la littérature vous parle de saccage, etc. Quand on fouille des cimetières en Moyenne-Égypte, ça c'est très vieux, c'est les fouilles de Thompson dans les années 1920, quand on a fouillé les tombes, on s'est rendu compte que le matériel découvert dans les tombes villageoises était beaucoup plus riche que au moment de la période faste. C'est-à-dire que si au sommet de l'État, ça s'était effectivement peut-être délité, complexifié, dans certaines communautés villageoises, les gens vivaient beaucoup mieux. Donc en fait, le fait de s'intéresser comme ça aux populations, aux classes moyennes, aux populations même plus modestes, permet de relativiser ces notions de période d'apogée, période d'effondrement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième refus, alors là, il est beaucoup plus direct, ça vient d'un problème que j'avais quand j'étais étudiant. Vous savez, quand vous êtes étudiant, on a tous un souvenir comme ça. Vous lisez le bouquin, des fois c'est le bouquin du prof, puis vous avez un truc qui vous dites c'est pas possible que ce soit comme ça. Mais vous n'osez pas. Dans le partiel, vous mettez comme le prof il a dit pour avoir la bonne note. Bon. Mais quand vous avez un poste, non, je suis tranquille, hein, je peux dire ce que je veux. Et il y a une notion qui, depuis le début en égyptologie, m'a déplu. C'est la notion d'empire. Parce que empire, vous avez vu un peu l'imaginaire politique que ça se trimballe ? Si vous dites empire, à minima, vous avez l'empire, à maxima, vous avez l'empire romain. Centralité, efficience administrative, pouvoir absolu. Tout cet imaginaire-là. Et puis en plus, domination de vastes territoires. Étrangers au cœur, au royaume initial. Bon, quand vous êtes au troisième millénaire, l'empire égyptien en sens territorial, je ne le vois pas. Les Égyptiens ne sont pas les maîtres du Levant, ils ne sont pas les maîtres de la Nubie, ils font des expéditions, tout ça, mais ça ne veut pas dire... C'est parce que vous entrez dans le territoire de quelqu'un, vous faites une razzia, vous piquez plein d'esclaves, vous revenez, que vous êtes les maîtres de la région. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, la notion de centralité du pouvoir. Voilà, le pharaon décide de tout. Comment le vérifier, cela, avec la documentation du troisième millénaire ? Je vous dis, c'est très simple, on ne peut pas le vérifier. Les Anglais, ils ont été beaucoup plus pragmatiques que nous. On a repris de manière tout à fait, à mon avis, abusive, le terme allemand de Reich. Les Anglais, ils ont dit « kingdom ». Donc, ils disent « ancient kingdom »,« middle kingdom » et « new kingdom » pour le nouvel empire. Et déjà, « royaume », c'était beaucoup mieux. Parce que « royaume », c'est neutre. On ne convoque pas tout l'imaginaire romain, voire bonapartiste. Et du coup, nous, on a repris ce terme de « royaume ». Et du coup, ça a eu un effet sur notre pharaon. Notre pharaon est un roi. pourrez prendre le bouquin, vous faites un... Alors, vous changez pharaon par roi, le bouquin, il marche aussi bien. Le pharaon est un roi. Et vous voyez que là, si on dit roi, tout de suite, on a beaucoup plus de latitude pour réfléchir à la nature de ce pouvoir-là. Donc, on n'a pas repris à la fois le découpage et on n'a pas repris non plus à la fois la désignation de ce découpage. Du coup, ça nous a amené à réfléchir à comment on va découper l'histoire. Ça, c'est le point absolument fondamental. C'est-à-dire, si vous ne reprenez pas l'ancienne typologie, comment vous découpez ? Eh bien, en fait, on a découpé, on a cherché à montrer, on a cherché à trouver des solutions politiques. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que le pouvoir, pendant un siècle, deux siècles, trois siècles, pour les plus longues périodes, s'organise d'une certaine façon, pour répondre à un certain besoin. Typiquement, à un moment, les Égyptiens se lancent, milieu du deuxième millénaire, dans des conquêtes tous azimuts. Ils vont au Levant, ils vont au Soudan. Et là, on a vraiment la mise en place de l'Empire. Mais ça correspond à un moment de l'histoire égyptienne. Ensuite, cet Empire, du tout du moins dans notre analyse, leur coûte trop cher, est absolument intenable. Donc, on a une phase de contraction. Et ça, c'est un deuxième temps. Et donc, à la fin, et là, je dis ça, c'est ce que je vous dis est parfaitement honnête, c'est-à-dire c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé. C'est un travail d'écriture au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on est parti sans a priori. Donc, à la fin, on retrouve certains découpages de nos collègues. Par exemple, le Nouvel Empire, il y est. Simplement, il est coupé en deux. Phase impériale, phase de contraction. Vous voyez ? Donc, vous pouvez retrouver les découpages, mais simplement, on ne s'est pas embarrassé de cette terminologie qui nous embête et qui nous est pas apparue juste. Et surtout, on a essayé de montrer la cohérence de séquences de temps. Et ça, ça a un grand intérêt, enfin, tout du moins selon ce que nous a dit notre éditrice, Madame Bronsolet, qui était au début très, très réticente, enfin, trouvait que l'Égypte, c'était vraiment souvent... Elle nous a dit, ça me tombe des mains souvent, les livres d'égyptologie. Et ça a eu au moins un grand intérêt, c'est que les livres, les chapitres sont lisibles chacun comme une petite histoire. Voilà la solution politique proposée à ce moment-là. Voilà comment on la met en œuvre, voilà ses limites, et voilà pourquoi on transforme. Donc chaque chapitre, en fait, est un petit essai, mais tout peut être lu, si vous voulez, du début à la fin, parce que c'est un changement de forme politique, mais en même temps, chaque chapitre a son autonomie.
Oui, très bien. Et surtout, vous redonnez un peu de contenu aussi à ces périodes intermédiaires qui sont négligées. Et je trouve que c'est un autre progrès à mes yeux, hein, de votre livre pour la connaissance de l'Égypte antique, c'est la place que vous accordez aux époques tardives, à l'époque perse, aux deux dominations perses, à l'époque hellénistique et à l'époque romaine, qui sont souvent, dans les histoires de l'Égypte, le parent pauvre, ou dans les manuels d'ailleurs. Et en même temps, c'est un défi, parce que vous couvrez une très très large période, et le risque est de simplifier ou de déformer les choses. Alors, pourquoi vous avez fait ce choix d'intégrer jusqu'à Dioclétien ?
Alors, Joël Cornette n'est pas là. Il dira que j'ai raison. C'est qu'au début, moi, prudemment, j'avais dit « on va s'arrêter à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est bien. Après, je comprends rien. Bon. » Et puis, il m'a dit « Non, faites pharaon. Jusqu'à quand il y a des pharaons ?» C'était la question. Voilà. Il me dit « Jusqu'à quand ?» J'ai dit « Le dernier pharaon. » Je savais pas encore à l'époque. J'ai dit « Ce troisième siècle, ça va se terminer vers là. Que le dernier empereur romain autorisé qu'on le représente comme un pharaon, c'est cette période-là. » Et bien, Joël m'a dit « Mais non, il faut aller jusque-là. Si vous faites un bouquin sur les pharaons, il n'y a pas de raison qu'à un moment, vous disiez « Attendez, ceux-là, qui sont représentés par des Égyptiens comme des pharaons, ne le sont plus. » Et ça a eu un effet, en fait, là c'est pareil, vous prenez une décision un peu comme ça sur un coin de table, vous rentrez chez vous, vous dites « bon, ben, ça va me faire rajouter deux chapitres », mais en fait ça a un effet sur l'ensemble du bouquin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à vous intéresser aux pharaons perses, aux pharaons macédoniens et aux pharaons romains, alors les Perses et les Romains en particulier, ils ne vivaient même pas en Égypte, hein. Darius, il est à Persépolis, Auguste, il est à Rome, c'est-à-dire que vous avez des gens que les Égyptiens vont parer des symboles pharaoniques alors qu'ils ne sont pas présent physiquement à la tête du royaume d'Égypte, vous commencez à envisager différemment les périodes précédentes. Vous vous dites, tiens, est-ce que sous une apparence graphique similaire, en fait, on ne pourrait pas avoir des hommes vraiment très différents les uns des autres ? Est-ce que, par exemple, un pharaon du troisième millénaire a exactement la même conception du monde qu'un pharaon du deuxième ? Quand vous posez la question comme ça, la réponse, elle arrive rapidement. Entre les deux, il y a 1500 ans. Vous imaginez ce que ça peut travailler une société en 1500 ans ? Comment les gens peuvent se transformer, envisager leur rapport au monde de manière différente ? Et ça nous a invités en fait, à ne pas nous arrêter à l'apparence de la monumentalité de pierre, celle qui nous est parvenue parce que c'est la plus solide. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que ce qui nous est parvenu de l'Égypte, c'est une espèce de malentendu. Ce qui nous arrive, c'est la monumentalité de pierre, qui était la monumentalité marginale en Égypte, celle fabriquée par le pouvoir. Les villes égyptiennes étaient des villes de terre crue. Le grand palais des Toutmosides de Malkata, à Thèbes, est un palais qui était en terre crue. D'accord ? Et ce qui nous arrive par la pierre, c'est un certain signal envoyé par la société égyptienne, qui est le signal le plus codé, le plus conforme aux traditions, et ça fabrique une illusion de permanence. Mais parce que nous avons prioritairement accès aux sources qui consacrent cette permanence. Dès que vous introduisez, et ça malheureusement on peut difficilement le faire avant le premier millénaire, des sources papyrologiques, c'est les sources de la pratique, les sources que les gens utilisaient tous les jours, les petits comptes domestiques, les documents de l'administration, etc., là, vous vous rendez compte que vous avez la façade de pierre, celle qu'on vous montre à foison dans les expositions et tout ça, mais derrière, vous avez une société qui évolue considérablement. Tout à l'heure, j'ai une discussion avec un journaliste et il me dit « Oui, mais le temps passait moins vite. » Je ne sais pas, je n'ai pas le compteur, je n'ai pas le chrono, je ne peux pas dire. Mais on ne me fera absolument pas croire, c'est une fable absolue, que de dire qu'il y a un homme égyptien immuable qui déboule à la fin du néolithique et qui s'achève au moment d'Alexandre le Grand. Ça, absolument impossible. Le mot égyptien, le mot sapiens sapiens, il transforme sa société.
Non, et surtout, vous avez alors accordé une grande place aux papyrus, oui, qui sont donc ces sources écrites sur papyrus et qui documentent un aspect de la vie qui n'est pas l'aspect officiel, mais même pour les périodes les plus tardives, quelques grosses archives, oui, du troisième millénaire ont été décrites et vous donnez beaucoup de place à ces papyrus, à ces textes. Est-ce que ça a été difficile d'avoir accès à cette documentation?
Parce non, il n'y a pas eu de. L'avantage, c'est aussi que. Si vous voulez, le papyrus est une source qui décroît et qui croît au fur et à mesure du temps. Troisième millénaire, très très peu de papyrus et d'ostraca. Deuxième millénaire, on commence à en avoir beaucoup plus, sur un site en particulier, le village de Deir el-Médineh. Et puis au premier millénaire, c'est l'explosion en a énormément. L'avantage, et c'est là où je reviens sur ce que je disais au début, l'avantage, Juan Carlos et moi-même, étant plutôt des spécialistes d'histoire économique et sociale, et nous intéressant depuis très longtemps à cela, et donc ce sont des sources qu'on a, à la limite, c'est des sources qu'on avait le mieux travaillées. Ce sont les sources qui nous sont apparues comme absolument évidentes à utiliser, ces sources papyrologiques. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de donner cette profondeur pour le troisième millénaire, où les papyrus sont extrêmement rares. Par contre, à partir de l'époque, pour le premier millénaire, ça coule tout seul.
C'est sûr. Et je vais revenir sur ce défi de couvrir une aussi longue période avec autant de sources dont vous n'êtes pas, ni Juan Carlos, ni toi-même, des spécialistes. Comment avez-vous travaillé pour la papyrologie grecque, par exemple, ou des sources en langue étrangère? Parce que vous incluez énormément, vous insistez beaucoup sur ce point, que l'Égypte est une société multiculturelle depuis l'origine. Et donc, il faut avoir accès, même vous mettez des photos de papyrus araméens. Ouais. Comment vous avez travaillé sur ces sources?
Alors, pour les sources papyrologiques grecques, qui est un vrai problème, parce que moi, je ne suis pas un papyrologue du grec, c'est à la limite, l'histoire nous a servi toute seule. C'est que ce que vous lirez sur la période hellénistique et la période romaine, ça n'est pas une histoire de l'Égypte hellénistique ou une histoire de l'Égypte romaine. C'est l'histoire de ce qui reste du pharaon à ce moment-là. De fait, on ne vous raconte pas, voilà comment était structuré l'État des Ptolémées, voilà comment était l'administration romaine. C'est la référence pharaonique à ce moment-là. Ce qui fait que, automatiquement, la papyrologie grecque, la grande papyrologie documentaire grecque, ne jouait pas un rôle central dans cette approche-là. Sur la documentation araméenne, moi j'ai eu la chance de faire un peu d'araméen quand je travaillais sur la période perse, et là j'ai bénéficié des conseils de collègues araméisants, mais il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire que dans un livre comme ça, on ne va pas au fond des choses, des problèmes posés par la papyrologie. Les dossiers documentaires que je vous présente en papyrologie, notamment araméenne, alors la papyrologie araméenne, l'araméen, c'est la langue qu'utilisait l'administration perse en Égypte. Et ces dossiers-là sont des dossiers qui sont ultra publiés, ultra travaillés dans des traductions très sûres qui sont faites depuis le début du 20e siècle. Donc en fait, on cite la traduction, on en dit voilà, c'est M. Massien qui l'a traduit ou Mme Truc, et ça n'est pas nous qui les avons traduits. Il y a eu ensuite, il y a une période qui nous a posé une difficulté tout à fait particulière, c'est la première partie du deuxième millénaire, 2000-1500. Parce que là, on a non pas tant de problèmes de lecture de documents, c'est qu'on a une foison de documents et de découvertes nouvelles. C'est-à-dire qu'on a commencé, c'est Juan Carlos qui avait commencé à travailler, pour vous dire, hein, il avait commencé à travailler dessus il y a 3 ans, tout était à réécrire au bout d'un an et demi compte tenu du rythme des découvertes. Voilà. Parce que là, on est sur des règnes qui sont fluctuants, des objets sont en permanence. Donc là, on a cherché à rendre les choses par la rhétorique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, quand vous trouvez dans le livre, ce problème apparaît complexe à traiter, ou il nous semble utile de sursoir, ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui sortent que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous faire un avis. Ça peut être interprété, et ça a été interprété dans les discussions que j'ai eues avec des collègues, on me dit, oh, mais ça, c'est une simplification, tu ne peux pas dire ça comme ça, etc. À un moment, on est obligé de dire stop. Parce que si vous attendez d'avoir l'ultime réponse à l'ensemble des problèmes sur 4500 ans d'histoire, le livre n'est jamais écrit. Voilà. Donc à un moment, on dit voilà. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a présenté les solutions à chaque fois qui nous apparaissaient les plus raisonnables. À chaque fois, on renvoie à un auteur qui nous a semblé le plus raisonnable sur la question. Et l'auteur, vous le retrouvez dans la bibliographie. Et puis après, libre à vous d'aller approfondir si tel ou tel point vous plaît. Mais il n'est absolument impossible d'écrire un livre de cette nature-là si vous ne faites pas à un moment des choix qui tranchent en disant voilà, on arrête à un certain moment. Sauf dans un cas, qui est un cas toujours possible, c'est que vous faites des fiches. Vous savez, je fais une fiche par roi, je fais une fiche par dynastie, je colle mes fiches et je fais un livre. C'est un livre physique. C'est-à-dire que vous aurez effectivement des pages reliées entre elles. Mais ça ne sera pas un vrai livre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, de la part des auteurs, la volonté de penser les problèmes et de vous en donner leur relation. Ce sera une collection de fiches de travail extrêmement utile pour préparer un exposé ou un mémoire, mais absolument pas impossible à lire en réalité. Enfin, à moins d'avoir des goûts de lecture d'annuaire téléphonique, vous voyez, mais ça c'est autre chose.
Un autre élément qui n'est pas le moindre, c'est qu'il s'agit d'un beau livre. Avec de très belles images, tant pour les cartes, les schémas, les frises chronologiques et les photos d'objets. On a l'impression d'avoir un livre d'art dans un format un peu plus adapté. Alors, est-ce que cette dimension iconographique a guidé votre entreprise dès le départ ? Ou bien c'est devenu de plus en plus évident au moment où vous écriviez ? Comment est-ce que vous avez intégré ? Comment s'est fait le travail entre le discours historique que vous tenez et l'intégration des images, des fiches pédagogiques?
Alors ça, c'était l'aspect le plus excitant du projet. Parce que généralement, quand vous êtes contacté par un éditeur, l'éditeur veut du texte au kilomètre, il prend le texte, il fait son livre, et ça part. Vous vous dites, je voudrais une carte. Non, c'est trop cher. Non, je voudrais une image. Non, c'est trop cher. Bon, d'accord. Et votre livre, vous dites, oh, bah, il aurait pu y avoir ça et ça. Alors là, par contre, chez Belin, c'est l'inverse. Hein, c'est open bar. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais assez de cartes, jamais assez d'images. Je le savais parce que moi, j'adorais la collection Histoire de France de Belin. Donc, je me disais, on va réussir à faire ça. Je n'avais pas réalisé le problème parce que je m'étais dit, bon, on fait le texte, on choisit des images avec l'iconographe, Madame Naslennikov, à qui je rends hommage ce soir, mais je vais vous reparler dès l'après. Et puis après, moi, je vais faire des notices et hop, ça va partir comme ça. Et je me suis dit, dans le cœur de mon métier là-dedans, c'est de faire du texte, le texte magistral, comme ils disent chez Belin. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que d'abord, vous avez une iconographe qui lit votre texte et qui, elle, fait des recherches de son côté. Donc, le jour de la rencontre, vous préparez le chapitre. Là, je vous mets dans la... Vous voyez comment ça se fait derrière. Moi, j'arrive avec 4 pauvres images traditionnelles. Poum, 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 je les mets sur la table. Et là, elle sort, bam, 600 images. Et elle me dit, non, mais on ne va pas faire avec vos trucs, là, ça ne va pas. Je vous montre, moi, ce que je vois par rapport à ce que j'ai lu et par rapport à votre période. C'est-à-dire que l'iconographe, vous trouvez son nom à la fin, Madame Naslennikov, a lu le livre, s'est fait une idée sur les chapitres, et avec toute sa science d'iconographe, alors elle dispose de bases de données énormes, puis elle a une culture visuelle qui est absolument prodigieuse, elle est allée chercher des images. De sorte que là-dedans, pour être honnête, 2% des images, c'est nous qui les avons apportées. Le reste, c'est elle. Alors moi, j'étais super content, parce qu'en plus, ça marchait bien. Bon, donc voilà, on met les images, puis je me suis dit, maintenant, c'est fini, j'ai fait mon texte, et tout ça, c'était au printemps dernier. Et là, je commence à faire les commentaires. Et en fait, ça ne se passe pas non plus comme ça. Parce que Madame Brossolet, la directrice de l'ouvrage, elle prend votre commentaire, elle dit ça sur l'image, vous ne me l'expliquez pas. Ça, vous ne me l'expliquez pas. Ça, vous ne me l'expliquez pas. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Et du coup, vous êtes obligé de tout réécrire pour que l'image, vous l'avez bien compris, ce n'est pas une image d'illustration, ce n'est pas fait pour faire joli, c'est une image qui marche avec le texte. Mais cette image-là, elle-même, vous ne devez pas paumer votre lecteur, vous ne devez pas lui balancer une image comme ça qui est complexe à décrypter, vous devez donner votre propre lecture. Et à la fin, donc il y a tout un travail d'écriture précise sur les images. J'ai collé bout à bout, pour en avoir l'idée, le fichier Word des 16 chapitres d'images commentées, ça fait 125 pages. C'est-à-dire, à l'intérieur du livre, il y a un livre, vous ne vous en rendez pas compte, parce que tous les commentaires sont dilués, c'est les commentaires bleus, mais c'est dans le livre, c'est un vrai petit livre à l'intérieur du livre. Et du coup, à la fin, bon, on était très, très contents, mais là aussi, je vous parle de l'intérêt que ça m'apporte en tant que chercheur, c'est que je comprends maintenant ce que veut dire commenter une image. Moi, j'étais quelqu'un du texte. Vous voyez, les images, ça va, ça parle tout seul. Là, non, j'ai compris qu'une image, ça se démonte, ça s'explicite. Et souvent, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous cacher derrière des mots, des formules toutes faites, des formules faciles. Il faut vraiment, pour expliquer les choses, toutes les images du premier chapitre, par exemple, qui sont des images qui sont liées à l'histoire agricole, l'histoire des techniques. Là, je me suis régalé parce que c'est mon truc. Mais c'est compliqué. Il y a un commentaire que j'ai fait là, d'une roue pour élever de l'eau, retrouver la roue qui tourne, la voir derrière les bœufs, etc. Enfin, je vous renvoie à ce commentaire, c'est dans le premier chapitre. C'est un commentaire qui m'a pris un certain temps. Il a fallu lire deux articles techniques là-dessus pour pouvoir commenter correctement l'image. Voilà.
Et alors, vous n'avez pas mis le masque de Toutankhamon?
Non.
Encore dans le refus, peut-être de...
Ce que je vous fais n'est pas une réponse hypocrite, c'est une vrai truc. J'étais pas parti avec l'idée de pas le mettre, mais à la fin, il n'y était pas. C'est-à-dire que la masse documentaire qu'on nous a proposée était tellement riche que ça n'en a pas besoin. On n'a pas fait non plus la grande page sur les pyramides, voyez, parce que ça... Il y a deux raisons. C'est que d'abord, ça s'est fait, ça s'est trouvé que on n'a pas trouvé ça nécessaire. Et en plus, ce sont des images qui sont tellement dans l'œil des gens. On les a tellement dans les yeux, ces trucs-là, que finalement, quand on s'est rendu compte qu'ils n'y étaient pas, on s'est dit, ils ne sont pas là. Eh bien, tant pis, ils ne sont pas là. Voilà. De toute façon, vous les connaissez.
Hein. Mais à la place, j'ai découvert le mobilier fantastique de la tombe de Psousséness Ier.
Voilà, il y a les tombes de Tanis, il y a aussi toute l'iconographie que moi j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus ingrate à regarder, mais absolument passionnante pour la période romaine, où on voit le pharaon disparaître des stèles. Vous avez le pharaon sous les prêtres du taureau Boukis d'Hermantis représentent Dioclétien. Dioclétien accepte encore d'être représenté. Il est païen, il accepte d'être représenté encore comme pharaon. Et puis ensuite arrive Constantin qui lui dit non, je ne veux plus être représenté comme pharaon. Et puis alors donc ils sont embêtés, les prêtres, ils vous mettent un prêtre qui rend hommage au taureau Boukis en lieu et place de ce qui aurait dû être le roi. Et puis vous avez une dernière stèle où là vous avez le prêtre lui-même qui a disparu, vous avez un bouquet de fleurs. Voilà. Et vous pouvez voir en trois documents, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas beaux à regarder, c'est des documents de facture très grossière, vous voyez disparaître la référence pharaonique. Ça, c'est rare. C'est un article magnifique de Jean-Claude Grenier, notre collègue qui a vu ça sur ses stèles. Alors, c'est vrai, c'est une documentation qui vous montre graphiquement la disparition d'une référence. Voilà.
Donc, vous mettez bien en avant des documents qui sont peu connus, en fait, mais qui sont historiquement essentiels.
Qui sont peu connus. Et l'idée aussi, c'est de permettre à tout le monde de s'approprier des bouts de l'histoire égyptienne que naturellement on ne va pas trouver dans la littérature égyptologique. Mais c'était aussi... Moi, j'ai été prof 9 ans dans le secondaire. J'ai fait 9 ans en collège. Et l'Égypte, en livre de 6e, c'est un vaste ronronnement. C'est infernal. Je veux dire, vous prenez un manuel des années 2010, vous prenez un manuel des années 80, j'avais les mêmes quand j'étais en 6e, moi. D'accord ? Et l'idée aussi, c'est que les enseignants, tous les gens qui ont à faire de la médiation sur l'Égypte, puisqu'à un moment, se saisir de ça, de cette iconographie, pour renouveler un petit peu le stock. Parce que l'avantage de la documentation égyptienne, et ça, c'est un paradoxe. Parce qu'on vous dit tout le temps, l'Égypte, il y a plein de choses, c'est tellement beau, mais on voit toujours les mêmes choses. Tandis que là, on a... Moi, le travail qu'on a fait sur l'iconographie nous a montré que c'était encore plus vaste que nous le pensions, en réalité. Et je suis persuadé qu'on peut en faire 4 ou 5 autres. Il n'y a aucun problème. Le matériau est là. Hein.
Et pour les cartes, Qui a fait les cartes? Qui les a dessinées?
Alors, les cartes, elles ont été faites par la cartographe attitrée de la collection, qui s'appelle Aurélie Boissière. Alors, ça a été un travail aussi, pareil, qui nous a obligés à nous poser tout un tas de questions. Alors, l'avantage d'Aurélie Boissière, c'est que c'est quelqu'un qui travaille, qui a fait toute la collection d'Histoire de France, que vous connaissez, elle a même publié l'Atlas, qui est formidable. Et donc, elle a une habitude de travailler énormément avec les historiens. Donc, elle voit très bien que déjà, nous, on n'est pas bon pour faire des cartes. Et moi, je vous raconte une anecdote. Je lui dis, mais comment on fait? Elle m'a dit, mais c'est pas compliqué. Surtout, vous n'essayez pas d'utiliser un logiciel. Ça va être affreux. Vous prenez papier, vos crayons de couleur de vos enfants et tout, vous faites les cartes. Donc, on les a faites comme ça. Elles existent dans un état, c'est absolument honteux. C'est un truc. Donc là, elles sont très jolies. Mais le fait de travailler avec elles, c'est pas uniquement. Il n'y a pas uniquement donné un dessin qu'elle a transformé en carte. Elle nous a obligés à réfléchir. Par exemple, la notion de frontière. Est-ce que ça a du sens pour un royaume de l'âge du bronze de faire une frontière comme la frontière d'un État-nation moderne, avec une ligne? Vous voyez? Une ligne dans le Sahara, dans l'âge du bronze. Alors là, vous êtes en Égypte, là, vous n'êtes plus en Égypte. Vu les moyens de contrôle territoriaux dans l'État de l'âge du bronze. On n'arrive pas aujourd'hui à contrôler le Sahara. Imaginez ce que ça pouvait être à les moyens de l'âge du bronze. Donc, elle nous a dit, ben, par exemple, les centres de pouvoir, en fait, on va les mettre sur une couleur qui est... très saturé, et au fur et à mesure que vous estimerez que ça décroît, on va faire un fondu. Et du coup, on a des cartes qui, nous, sur un plan intellectuel, nous satisfont beaucoup plus, parce que ça correspond à ces formes de pouvoir d'État qui ne disposaient pas de moyens mécaniques, qui ne disposaient pas de moyens d'observation modernes, qui sont en fait des contrôles territoriaux très lâches à partir de centres qui peuvent être très bien tenus, mais dès que vous vous éloignez de ces centres, l'État n'est pas en mesure simplement de les contrôler.
Et j'ai repéré aussi qu'il y a même des dessins. Vous avez même mis un extrait de la bande dessinée de Blake et Mortimer.
Oui. Bon, ça c'est une idée de moi. Oui, on a mis un truc de Blake et Mortimer parce qu'en fait c'est sur le troisième millénaire. C'est ce dessin du mystère de la Grande Pyramide où Jacobs Mortimer visite le musée avec le conservateur égyptien. Le conservateur égyptien lui montre la petite statue de Khéops. Il dit, tu vois, c'est étonnant parce que ce roi qu'on connaît par sa grande pyramide, on ne le connaît lui personnellement que par cette petite image. Et en fait, moi j'adore Jacobs, hein, donc là je suis jugé parti, mais Jacobs comprend quelque chose de fondamental, qui est une réalité documentaire du troisième millénaire. C'est-à-dire, vous avez les grandes pyramides, mais c'est impressionnant, on dirait. Mais en fait, de ce qu'on sait de ces rois du troisième millénaire, c'est très, très peu de choses. C'est extrêmement ténu. On n'a même pas osé faire les arbres généalogiques qui sont des fois proposés. Parce que quand on vous dit le titre de fils royal existe à l'époque, donc quand on vous dit machin et fils royal de truc, ça peut être un titre administratif comme ça peut être une réalité biologique. Et Juan Carlos m'a dit non, on ne va pas faire d'arbres généalogiques parce que ça serait faire croire aux gens qu'on a compris la généalogie de ces gens-là, alors qu'en réalité, elle est fluctuante. Donc, on a refusé de faire de la généalogie. Et ça renvoie à l'idée aussi. Alors, des collègues nous ont dit, oui, mais là, vous exagérez, c'est de l'hypercriticisme. Mais en même temps, ça vous montre, et ça nous a montré aussi à nous, la réalité de ce que nous savons sur une période. Voilà, le troisième millénaire, il ne faut pas chercher à le faire ressembler à ce qu'on sait pour le deuxième. C'est une époque où on a des données archéologiques de plus en plus précises, on a ces grandes pyramides, la structure même du pouvoir est très peu documentée, et en fait, ce qui est éclairé par les textes, c'est essentiellement la cour, c'est-à-dire une micro-société qui évolue dans le nord du pays, dans la région Memphite. Pour le reste, c'est assez difficile aujourd'hui à éclairer.
Et en général, vous avez été très prudent sur énormément de points, parce que bon, en égyptologie, il y a souvent des polémiques, il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas freiner la rédaction ou... Des moments de frustration ou...
Alors là, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que je n'ai pas l'impression qu'on a été prudent. Ce n'est pas ma première qualité. Non, on n'a pas eu le sentiment... Ce qu'on a cherché très, très exactement, c'est à être juste. C'est-à-dire de dire les choses comme on pensait qu'elles étaient. Vous voyez ? Donc, il y a des moments où peut-être, effectivement, sur le troisième millénaire, on a fait attention. Sur le deuxième millénaire, sur l'interprétation qu'on fait de la crise amarnienne, là, je pense qu'on, enfin, sur Amarna et Akhenaton, je pense qu'on, là, on avance justement beaucoup de choses. Et ça, on aura des discussions. Voyez, mais à chaque fois, on n'a pas cherché à jouer soit la carte de « oulala, je ne sais pas, je me protège », ou la carte « on va aller à la provocation ». On a cherché à tenir, à chaque fois, à dire ce qu'on voyait très exactement. On a cherché, en fait, à être honnête. Voilà. Et c'est une difficulté, parce que c'est une chose... quand vous voyez quelque chose, Vous savez que ça va créer une polémique, mais vous le voyez, vous avez deux options. Vous dites, bon, allez, hop, je vais mettre ça sur le côté, et puis on attendra qu'un jour, quelqu'un ait la même idée que moi, et puis à ce moment-là, je dirais, oui, moi aussi, je l'avais eu il y a 20 ans. Là, on a cherché, voilà, sur des choses où ça nous semblait manifeste qu'on pouvait écrire cela, on l'a écrit. L'idée aussi, c'est de montrer aux gens, aux collègues, enfin, à l'ensemble, c'est que l'égyptologie, ça commence. L'histoire de l'Égypte ancienne commence. C'est-à-dire qu'on a, il y a tellement de problèmes qu'on n'a pas solutionné, tellement de choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça aussi, je reviens à ce qu'on disait au début, on s'est opposé à l'idée d'empire. Parce que quand vous mettez le mot d'empire, vous faites semblant d'avoir compris une réalité politique. On ne l'a pas compris. La structuration de l'État au troisième millénaire, on ne l'a pas compris. Vous voyez ? Et donc l'idée, c'est aussi de dire aux gens, voilà tout ce qu'on n'a pas compris, voilà tous les champs possibles. Et ça me vient d'une réflexion que j'entends régulièrement de la part des étudiants. C'est une réflexion qui me navre. Les étudiants vous disent, on est né trop tard. On arrive après. Toutes les grandes découvertes ont été faites. C'est catastrophique. Parce que ça commence aujourd'hui. Les moyens d'exploration de l'archéologie sont absolument incroyables. Mais pour que ces moyens puissent s'épanouir, pour que ça puisse donner une vision plus réaliste, plus cohérente, plus intéressante, plus passionnante de l'Égypte ancienne, il faut lui faire de la place. Et pour faire de la place, il faut se débarrasser de ces vieux mots. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout à la poubelle. Ça veut dire que quand on n'a pas compris, on dit « j'ai pas compris ». Et voilà, l'État du troisième millénaire, c'est un royaume, mais ce n'est pas un empire et je ne sais pas exactement ce que c'est. Et là-dedans, là, si on fait ces appels d'air, là, on peut avoir effectivement de la recherche et des problématiques intéressantes. Une chose, pour illustrer ça, alors je ne vais pas donner le nom, mais hier, j'étais en discussion avec un collègue archéologue qui fouille dans l'oasis, dans une oasis là, du désert libyque, dans laquelle je fouille. Ils ont trouvé récemment un champ agricole de blé en herbe, fossile. Le blé en herbe fossile. C'est le seul parcellaire, à ma connaissance, archéologique, où on va avoir du végétal en élévation. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose qu'on va comprendre de manière extrêmement précise les modes agricoles à ce moment-là de l'histoire, grâce au travail sur ce bout de champ. Et l'archéologie égyptienne regorge de trucs comme ça pour une raison très simple. C'est la sécheresse qui nous préserve le matériau organique comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais pour que tout ça puisse être exploité, je pense qu'il y a un certain nombre de vieilles idées qu'il faut mettre de côté et puis proposer un récit où on dit simplement, laisser simplement les choses qu'on n'a pas comprises flotter, dire voilà, ça c'est pas compris, ça c'est compris, pour que ces nouvelles données, ces nouvelles idées, ces nouvelles interprétations puissent trouver leur place. Je termine juste sur ce point, parce que c'est important, c'est la notion d'interprétation. Moi, je ne suis pas un égyptologue sur le fond, je suis un historien. Je suis quelqu'un qui propose un discours rationnel, qui essaie de l'être, tout du moins, sur une période de l'histoire. C'est mon point de vue. Je vous raconte les choses comme je les vois. Et là, il y a un effort à faire. En égyptologie, mais aussi, l'égyptologie n'est pas toute seule, dans toutes ces sciences de l'Antiquité un peu ancienne. Il y a une tradition aujourd'hui où on dit, on écrit une synthèse, et c'est la synthèse définitive, et c'est la synthèse qui sera là pour toujours, et il ne peut y en avoir qu'une. Ce livre, et j'espère que d'autres livres comme ça viendront, est une synthèse faite par des gens dont je vous ai expliqué le background, les goûts, les appétits. Il ne prétend absolument pas à être la synthèse définitive. Il prétend à offrir une certaine vision. Si on voulait un tape de piano, on rajoute un octave. Voilà. Je pense que des collègues qui travailleront sur l'histoire religieuse ou l'anthropologie religieuse, qui n'est pas notre domaine, écriront une histoire qui sera différente. Mais dans le fond, c'est une bonne chose. Regardez, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une seule histoire de France ? Non, tout le monde admet que, voilà, on peut la prendre sur l'angle politique, l'angle économique, etc. Donc, l'histoire est le fruit du croisement des visions des historiens. Et là, on vous propose une vision de cette civilisation. Et nous espérons que le livre appellera aussi d'autres historiens avec des appétits, des manières de faire différentes de la nôtre, nous proposeront aussi leur vision.
Et est-ce que vous avez déjà des regrets par rapport à ce que vous avez écrit en voyant les réactions, comme tu parles beaucoup des réactions des collègues ou des réactions du public? Vous avez déjà reçu des réactions de lecteurs qui ne sont pas forcément...
Nous sommes en décembre 2016. Non, là, j'ai la satisfaction animale de la bête de Somme qui a dételé. Vous voyez, quand on fait une randonnée, vous avez porté un gros sac à dos, C'est le soir, vous enlevez le sac à dos, vous êtes léger. Voilà, ma seule réaction pour l'instant, elle est là. Peut-être, et d'ailleurs, je pense que ça arrivera, dans quelques temps, on se dira, ça, on aurait dû le faire comme ça. Ça on aurait dû... Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. On fait quelque chose, ça se pose, ça s'incarne, du fait, ça se fige, et ensuite, on se dit, c'est perfectible. Je pense que si dans 10 ans, je reprenais le bouquin, je me disais, ah, ben, attends, on était trop bon, on était formidable et tout, ça voudrait dire, je me serais complètement fossilisé. Tu vois.
Et pour terminer, une dernière question. Est-ce qu'il y a eu, dès le départ, un souci pédagogique? C'était un livre grand public, mais est-ce qu'il y avait aussi l'idée vraiment d'atteindre, par exemple, un public d'étudiants aussi, dans l'idée des concours? Parce que tu es dans une UMR, tu sais ce que c'est que l'université, l'agrégation. Est-ce que vous aviez une visée, un public un peu...
On a eu l'idée... Non, on n'a pas visé un public. Ça, c'est lié à la collection. Ça, c'est pas nous qui décidons. L'idée, c'est que ce soit le plus lisible possible. Voilà. Donc, lisible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu un gros travail de relecture de la part de Madame Broussolet, la directrice de la collection, de Joël Cornette, qui repasse derrière. Et puis, après, moi, j'ai fait des choses très simples. J'ai pris les gens dans ma famille qui aimaient lire l'histoire et qui n'avaient absolument aucun goût pour l'Égypte. J'en ai quelques-uns. Et donc, ils ont relu tout le manuscrit. Et je leur disais, quand tu t'ennuies, tu mets du fluo. Voilà. Et je reprenais les passages où les gens s'ennuyaient. Donc il y a un travail effectivement d'écriture. Je peux pas dire, on peut pas dire, je l'ai emmené, j'ai fait de l'écriture pour des étudiants, pour j'ai fait l'écriture, on a fait l'écriture la plus lisible possible. C'est vraiment, on est allé au maximum de ce qui nous semblait pouvoir être lisible. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est ce qu'il y a. Là, j'ai eu l'autre jour, ça c'est vraiment une grande satisfaction, j'ai eu un mail d'un monsieur, je ne connais absolument pas, qui, bon, ça fait un peu auto-satisfaction, qui a fait, il nous a envoyé un mail en nous disant pourquoi il avait apprécié le livre, et il nous a expliqué le livre, ce qu'il avait lu dedans. Et je me suis dit, ça y est, là on est compris. Je ne sais pas ce que fait ce monsieur, je ne sais pas quel est son métier, je me dis, bon, il y a quelque chose qui est... On a réussi à faire passer quelque chose, au moins à quelqu'un. C'est pas mal.
Bah écoute, en tout cas, moi, de mon côté, puisque j'enseigne la papyrologie à Bordeaux, je suis ravie d'avoir ce livre et je vais le recommander à mes étudiants pour la place qui est accordée à papyrologie, mais aussi pour cette volonté qui a été la vôtre de vraiment remettre un peu l'égyptologie, l'Égypte et son histoire, qui souvent sont l'apanage de l'égyptologie, de gens très spécialisés, dans l'histoire, d'en faire un objet d'histoire et pour le public des historiens que je côtoie, je trouve que c'est un grand progrès. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Merci pour
ça. On verra. Mais le résultat d'un livre comme ça, le résultat réel, son efficience, on le saura dans très longtemps. C'est-à-dire que là, il est là, il existe, il suscite des réactions. Mais est-ce qu'il aura vraiment... est-ce que des gens se seront vraiment intéressés à l'Égypte grâce à lui ou auront... une vision plus souple de la civilisation égyptienne grâce à lui, ça on peut... C'est... Dans le fond, tu posais la question de savoir comment je regarderais le livre, est-ce que j'ai des regrets et tout ça. J'aurais vraiment des regrets si dans 10 ans, je me dis que, personne... Enfin, ça n'a...
Suscité aucune réaction.
C'est pas suscité aucune réaction, c'est que tu te rends compte que le livre est resté une espèce d'ovni, tu vois, quelque chose qui est comme ça au-dessus. Mais en même temps, parce qu'effectivement, c'est là où les choses pourront être jugées. Voilà.
Très bien. Écoute, merci beaucoup, Damien, pour cette présentation.